le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce service protestant sur France Culture en ce dimanche matin. Si je vous dis soupe, savon, salut, cela vous évoque peut-être quelque chose. C'est la devise qui résume la triple mission que s'était donnée le pasteur William Booth dans la deuxième moitié du 19e siècle pour répondre aux besoins matériels et spirituels des plus démunis dans les quartiers défavorisés de Londres. Ce pasteur, en quête d'efficacité, va s'inspirer du modèle militaire pour structurer son action, qui deviendra l'armée du salut. En 1881, après avoir traversé la Manche pour s'implanter en France sous l'impulsion de la fille du pasteur William Booth, Catherine, l'armée du salut est aujourd'hui une organisation internationale. Et c'est maintenant 128 pays du monde qui bénéficie de son action. Son quartier général international est basé à Londres, sous l'autorité d'un général qui coordonne l'action au niveau mondial et fixe les grandes orientations. Et chaque territoire possède un quartier général national. Nous recevons ce matin le colonel Daniel Nau, qui est le président de la Fondation de l'Armée du Salut et supérieur de la Congrégation de l'Armée du Salut en France. Il est également à la tête de l'Armée du Salut en Belgique. Colonel Daniel Nau, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que la mission de l'Armée du Salut aujourd'hui est toujours liée à la devise de son fondateur, William Booth, soupe, savon, salut?
Oui, bien sûr. Il y a eu toute une évolution depuis que ces mots ont été retenus mis en avant les charismes qui étaient les nôtres lorsque l'Armée du Salut a débuté. Mais aujourd'hui encore, nous devons aller à l'extérieur de nos locaux, de nos structures, pour donner aux gens la nourriture dont ils ont besoin. Nous avons besoin aussi d'aider des gens qui sont en difficulté pour qu'ils puissent avoir un minimum d'hygiène, mettre des produits à leur disposition de manière à ce qu'ils puissent soigner leur personne. Et le salut, nous annonçons aussi à l'extérieur de nos salles et dans nos salles, le salut en Jésus-Christ.
Alors, derrière cette devise se cache ou ne se cache pas d'ailleurs une philosophie, mais peut-être même une théologie. Il y a une chronologie. Soupe, savon, salut, c'est pas la même chose que savon, soupe, salut, ou salut, soupe, savon. Il y a un ordre.
Oui, l'ordre, c'est que on ne peut pas parler de salut à une personne qui se trouve en grande précarité. Et on doit lui montrer l'attention qu'elle mérite dans la situation dans laquelle elle se trouve. Et déjà, lui donner ce dont elle a besoin pour vivre. D'où cet ordre de soupe, de savon et de salut. Et c'est une fois seulement qu'elle sera en mesure de se suffire à elle-même ou d'envisager un projet de vie que nous serons à même de lui parler de cette foi qui nous anime et qui nous met en mouvement.
Alors avant de parler de l'Armée du Salut telle qu'elle est aujourd'hui, hein, j'aimerais qu'on puisse parler un peu de vous, parce que vous êtes donc le responsable de l'Armée du Salut ici en France depuis maintenant 3 ans. Et quand on cherche un petit peu des informations sur vous, on trouve pas grand chose. Alors vous êtes très discret, mais qui êtes-vous? Comment est-ce que vous êtes arrivé à l'Armée du Salut et comment vous êtes arrivé à ces responsabilités? Mais au départ, quelle est votre motivation pour vous lancer dans cette aventure?
Je pense que toute personne vit sa croisée des chemins. Et lorsque le moment est venu pour moi d'orienter ma vie, je me suis souvenu de tout ce que j'ai reçu au travers de l'éducation que mes parents m'ont donnée, qui étaient eux-mêmes aussi chrétiens et officiers de l'Armée du Salut. Mes parents ont notamment exercé leur ministère en Algérie, c'est là où je suis né. Puis ensuite, ils ont eu plusieurs affectations, notamment dans le sud de la France, principalement. Et puis, ensuite à Paris. Et moi-même, après des études tout à fait classiques, j'ai donc fait mon service national. J'ai rejoint mes parents à Paris et je suis parti ensuite en Angleterre pour suivre une formation de 3 ans. D'abord en Pays de Galles, où je me suis préparé à entrer à l'école internationale qui forme des officiers donc à Londres pendant 2 ans en internat. Au terme de ces 2 années, j'ai été donc nommé en France et j'ai eu plusieurs affectations. Je me suis marié ensuite. Mon épouse est également officière de l'armée du salut. D'accord. Et nous formons une famille de 6, puisque nous avons eu 4 enfants.
Qu'est-ce que contient cette formation de 3 ans? C'est une formation à l'administration, à la gestion, ou c'est une formation plus théologique, ou peut-être les deux?
Oui, c'était en 1977 jusqu'en 1979, en fait 2 années d'internat, et nous sommes formés comme officiers, ministres du culte. Et nous suivons essentiellement des études sur le plan théologique, avec aussi de la pratique en visitant les différents postes de l'armée du salut qui sont à Londres, et il y en a beaucoup, puisque l'armée du salut, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, est originaire d'Angleterre et elle s'est répandue là-bas et elle est très présente en fait dans la société anglaise.
D'accord. Alors aujourd'hui, l'armée du salut a beaucoup évolué, et notamment en France. Maintenant, elle se divise en 2 grandes parties. Je ne sais pas si c'est les termes qu'il faut employer, vous allez me corriger si j'emploie pas le bon vocabulaire, mais en tout cas, il y a deux structures. Il y a la fondation de l'armée du salut, et puis il y a aussi la congrégation de l'armée du salut. Alors quand on se penche sur l'armée du salut, on trouve aussi des devises. Il y en a déjà une que nous avons évoquée, soupe, savon, salut. Et maintenant, si on parle de la fondation, eh bien on trouve aussi une devise qui est secourir, accompagner, reconstruire. Alors, c'est une déclinaison de ce que l'armée du salut souhaite faire.
Oui, essentiellement, en tout cas, vous avez souligné le fait qu'il y a maintenant 2 entités, la congrégation et la fondation. L'armée du salut est devenue congrégation en 1994, et 6 ans après, l'association des œuvres de bienfaisance de l'armée du salut, qui existait bien sûr depuis le début de l'armée du salut en France, la Fondation de l'Armée du Salut est née en l'an 2000.
Oui.
Alors la congrégation, elle est en fait membre de la Fédération protestante de France, avec ses officiers qui sont donc en activité, et ses soldats regroupés autour de 26 postes ou paroisses. La congrégation est reconnue comme une église.
Donc ça, c'est la partie spirituelle, on va dire, de l'Armée du Salut, avec aussi une devise que je trouve très intéressante, avec Dieu, avec l'autre, avec soi. Donc là, vous voyez l'armée du salut plus comme quelque chose de très ouvert vers les autres. Et là, on se retrouve vers un chemin plus vers l'intérieur, plus intime peut-être, pour développer cette spiritualité qui anime les salutistes.
Oui, oui, c'est important que chaque membre de chaque communauté s'empare vraiment de nos valeurs et soit même de propager, de diffuser cela autour de lui. Nous avons des grandes communautés, essentiellement dans la capitale, et nous avons des communautés beaucoup plus petites en province. D'où l'importance d'avoir dans nos structures des personnes qui sont motivées et qui sont bien sûr aussi qui ont choisi d'aligner leur vie sur les valeurs chrétiennes qui sont les nôtres et qui s'inspirent de la parole de Dieu.
Alors, si on pouvait revenir sur l'action de la Fondation qui s'est donnée pour mission donc de lutter contre toute forme d'exclusion. Comment ça fonctionne? À qui vous adressez-vous? Et quelles sont les difficultés ou les joies rencontrées dans cette mission?
La Fondation, en fait, elle est reconnue d'utilité publique, assurant une mission d'intérêt général et aussi d'utilité sociale. Et aujourd'hui, elle compte 171 structures et services.
En France.
En France.
Oui.
et elle a plus de 2000 salariés qui sont chargés en fait de la mise en œuvre du projet institutionnel fondé sur des valeurs portées, elle, par la congrégation, sans prosélytisme et aussi sans distinction d'origine.
Sans prosélytisme, c'est quelque chose d'important, ça, pour vous ?
Oui, surtout par rapport au contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec l'importance qu'il y a à vivre une certaine laïcité,
c'est ça.
Notamment en ce qui concerne l'accueil des personnes dans nos établissements sociaux. Et il y a quatre choses qui priment dans nos structures de la Fondation L'Armée du Salut. D'abord, l'inconditionnalité de l'accueil.
Oui.
Ensuite, il y a aussi ce besoin pour la personne de vivre ce processus de restauration de son être. Et nous prenons en compte chaque personne dans sa globalité. Il y a aussi le non-renoncement pour les équipes qui accompagnent et qui accompagnent ces gens qui ont besoin de retrouver leurs repères et d'envisager un projet de vie, d'où une concertation et un accompagnement, comme vous l'avez aussi souligné tout à l'heure. Et ce qui prime aussi, et c'est ces ponts qui existent entre la congrégation et la fondation, c'est notre volonté de parler d'espérance aujourd'hui à ces gens qui viennent pour un temps dans nos établissements, pour certains qui vivent une étape, pour d'autres qui finissent leur vie, puisque nous avons aussi des EHPAD, des lieux où les personnes et les familles qui les accompagnent choisissent de placer les leurs pour envisager le terme de leur existence. Et nous leur dispensons un certain confort, mais aussi nous leur parlons avec nos officiers qui interviennent au niveau de l'accompagnement spirituel au sein de la Fondation, de cette espérance qui nous anime, qui nous habite.
Et vous avez aussi une action particulière auprès des jeunes.
Oui, notamment des jeunes qui ont eu pour eux-mêmes ou pour leur famille des parcours difficiles. Nous les recueillons dans nos centres. Et notamment dans le Midi, où nous avons deux centres spécialisés à la Villa Blanche-Perron, à Nîmes et aussi Nazareth, un établissement qui se trouve lui à Montpellier, dans lequel nous accompagnons des jeunes qui ont eu un départ à la fois sur le plan physique, psychique,
délicat, social.
Social aussi. Mmh. Oui.
Donc des jeunes pris en charge par l'Armée du Salut, auxquels vous essayez aussi de transmettre cette espérance dont vous parliez il y a quelques instants.
Oui, oui, par le biais soit de personnes qui sont bénévoles et qui interviennent dans le cadre des activités de la congrégation, ou des officiers qui ont été aussi mandatés par leur instance nationale pour intervenir dans ce cadre particulier. Des jeunes, pour les aider à envisager l'avenir. Les premières années de la vie sont si importantes.
Et alors pour ces gens qui sollicitent l'Armée du Salut, qui arrivent à l'Armée du Salut, qui sont parfois au bout du rouleau, qui n'en peuvent plus, est-ce que arriver à l'Armée du Salut, c'est un choix ou c'est un... Ou c'est le hasard de la vie qui fait que ces gens arrivent là.
C'est sûr qu'aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous vivons, il y a tellement de réseaux qui existent. Et ces réseaux ont leur juste valeur. Mais c'est tout un circuit qu'il faut suivre pour des gens qui sont carrément désorientés et qui ont leur vie vraiment... mouvementé, qui n'est plus réglé comme tout un chacun. Vous savez, c'est lorsque les établissements officiels, les lieux de secours ferment le vendredi soir, que nos officiers, dans cet intervalle, dans l'intervalle du week-end, sont sollicités à tout moment, de nuit comme de jour, parce que nous répondons à ce type de sollicitation. Donc, il n'y a pas vraiment d'ordre. Je crois que ce qui est important pour nous, et c'est le message que nous faisons passer, c'est que l'Armée du Salut, à tout moment, de la journée ou de la nuit, veut se montrer disponible pour aider le prochain.
Merci, colonel Daniel Nau. Dans ce service protestant, nous allons dans quelques instants vous entendre partager avec nous un texte biblique. Mais tout de suite, on va écouter un peu de musique. L'Armée du Salut est connue pour sa musique. Vous avez pour nous choisi un morceau à partager avec nos auditeurs. Vous nous le présentez ?
Oui, dans le livre des Nombres, au chapitre 6, c'est Dieu qui s'adresse à Moïse et qui souligne le fait que la bénédiction de Dieu l'accompagnera. Et cette méditation que nous allons entendre parle justement de ce signe que Moïse reçoit de Dieu. Il lui dit que sa bénédiction reposera sur lui.
Vous êtes à l'écoute du service protestant sur France Culture. Nous sommes avec le colonel Daniel Nau de l'Armée du Salut. Colonel Daniel Nau, vous allez maintenant partager avec nous un texte biblique. Il s'agit d'un extrait de la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 1, les versets 27 à 30. Je vais vous laisser le soin d'en faire la lecture. Je rappelle juste auparavant que l'apôtre Paul est en prison, qu'il entretient par courrier la relation forte qu'il a avec la communauté de la ville de Philippe, au nord-est de la Grèce, une communauté qu'il a lui-même fondée au cours d'un voyage missionnaire. Tout au long de sa lettre, Paul dit la joie que la foi lui donne, et il encourage les Philippiens à vivre dans la joie, cette joie qui est présente au milieu de la faiblesse et des difficultés quand les chrétiens sont unis entre eux et avec Jésus, le Seigneur Jésus. Je vous laisse maintenant nous lire ces quatre versets de la lettre de Paul aux Philippiens.
Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme, dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens. De tout temps, à l'Armée du Salut, les cultes prévoient un moment de témoignage au cours duquel, spontanément, les fidèles sont invités à s'exprimer. À côté de la prédication, ce partage des expériences de la vie chrétienne a un rôle d'encouragement et d'édification. Nombreux sont ceux qui, entrés dans nos lieux de culte, à partir de nos réunions en plein air, apparemment indécis ou peu sensibles à la parole de Dieu, en sont ressortis après avoir fait l'expérience d'un profond changement intérieur. Autrement dit, de la conversion. Puis, à leur tour, ils sont devenus de nouveaux témoins, évoquant volontiers, lorsque l'occasion s'en présente, les circonstances qui les ont amenés à Christ. Soulignant dans leur prise de parole la joie d'avoir reçu de Dieu la grâce de croire en lui. La grâce de croire en lui, en Christ, c'est justement cela qui nous unit et qui fait de nous que nous sommes, avec tous ceux qui professent la foi chrétienne, frères et sœurs en Christ. La grâce est une invitation qui est faite à tous. Le Christ veut partager notre vie. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. L'apôtre Paul lui-même rappelle aux Philippiens sa propre conversion, sa propre rencontre avec Dieu. Circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église. Sur le chemin de Damas, il a été saisi par Dieu. Dieu est venu bousculer ses certitudes de persécuteur. Il devient même persécuté. La conversion n'est que le premier pas sur un nouveau chemin qui s'ouvre devant nous. Un chemin que nous montre le Fils et qui nous mène au Père. Aussi, il rajoute, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours pour tâcher de le saisir. » Ce cheminement doit se poursuivre tout au long de la vie. Il n'est pas sans difficulté, mais il est toujours accompagné par l'Esprit de Jésus-Christ en nous. Paul l'affirme en disant, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Nous avons fait cette même expérience de conversion, et en relisant le passage biblique qui le met en exergue, le souvenir de cette étape importante réapparaît. Que de recommandations faites par l'apôtre Paul aux membres de l'église de Philippe. Il les invite à marcher d'une manière digne de l'appel qu'ils ont reçu, digne de l'évangile de Christ, leur écrit-il. Insistant sur l'importance d'être habité par l'Esprit de Jésus-Christ, précise-t-il aussi, l'Esprit qui unit, rassemble, édifie, équipe et agit, jusque dans la profondeur de l'être. Paul souligne ainsi les effets produits par l'œuvre de Dieu qui se réalise dans des cœurs bien disposés. Le fait que les Philippiens vivent dans la même cité ne fait pas d'eux des personnes qui se ressemblent, stéréotypées. Chacun a sa propre vie, sa propre histoire de vie, son itinéraire de vie. Sur le plan spirituel, les voies qui les ont conduits à Christ par l'expérience de la conversion sont bien différentes. Pour certains d'entre eux, c'est le résultat d'un long processus. Pour d'autres, il s'agit d'un changement radical qui s'est opéré dans leur vie. Pour tous, le constat au final est là. Gagnés à la cause de Christ, Paul les exhorte à demeurer fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Paul salue l'attitude des membres de la communauté de Philippe qui, d'un seul cœur, unanimement, s'alignent sur les mêmes principes chrétiens. Un petit peu plus loin, dans l'épître qui leur est adressée, il les exhorte à faire montre d'un même sentiment, d'un même amour, d'une même âme et d'une même pensée. Alors, parvenus à ce stade, rien ne pourra aller à l'encontre de cet état d'esprit qui doit prévaloir, procédant d'en haut. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voilà le témoignage qu'ils sont appelés à propager, pas forcément avec des mots, mais au travers d'une attitude qui honore Dieu. Comme les Philippiens d'autrefois, nous sommes appelés à ne pas perdre de vue l'essentiel, à ne pas nous lasser de dire autour de nous que la grâce nous a été faite de croire en Christ. L'espérance que ce miracle se produise aussi dans les vies de nos contemporains, qui aspirent à ce que leur existence ait un vrai sens, nous incite à prier pour eux. afin que leur recherche sur le plan spirituel puisse aboutir. Dans une quinzaine de jours, nous allons vivre ce temps fort de protestants en fête à Strasbourg. Une belle opportunité de vérifier l'ampleur d'une grande fraternité au sein de la Fédération protestante de France, dont l'Armée du Salut est aussi membre. Puisse Dieu se manifester à nous au cours de cet événement et que son esprit nous garde tous unis en lui.
Voilà cette musique qui est extraite du disque que vous nous avez apporté, un disque joué par les musiciens de l'Armée du Salut. Écoutez, ça fait changer un petit peu les idées, en tout cas personnelles, que j'avais sur la musique de l'Armée du Salut, que là je trouve douce et très méditative en fait. Merci de nous avoir fait découvrir cette musique. Colonel Daniel Nau, on va terminer cette émission, on va se retrouver à Strasbourg, pour protestants en fête, dans 15 jours, le dernier week-end du mois d'octobre. Vous l'avez rappelé il y a quelques instants, c'est le thème de la fraternité qui va rassembler toutes les personnes qui vont venir à Strasbourg. Alors pour terminer cette émission, je voudrais vous demander, en un, deux ou trois mots, qu'est-ce que c'est pour vous la fraternité ?
La fraternité, c'est oublier ce qui peut-être nous sépare ou diffère entre nous et fixer nos regards sur l'essentiel, les valeurs chrétiennes qui nous habitent et qui doivent être traduites par des actes, des faits aujourd'hui pour que, comme le souligne la parole de Dieu, le royaume de Dieu grandisse.
Merci beaucoup, colonel Daniel Nau, d'être venu dans les studios ici à Radio France pour enregistrer cette émission. Vous avez pris du temps et vous en avez peu du temps, donc merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez consacré. Nous terminons ainsi donc ce service protestant. Merci beaucoup à Clotilde Pivin et à Jason Taous pour la réalisation et la prise de son de cette émission proposée par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Sachez que vous pouvez retrouver cette émission sur les sites franceculture.fr ou protestant.org pour la réécouter. Nous pourrons également vous fournir le texte de la méditation que nous a proposé le colonel Daniel Nau. Et puis, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, dans quelques instants, le journal à suivre. Et puis, retrouvez Marc-Alain Wachnin avec Talmudic tout de suite après. Bon dimanche.